Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. Deux fois par mois, nous vous proposons un grand entretien avec une personnalité du cinéma, du son ou de la photographie dont le travail artistique nous a marqués. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis accompagné pour ce nouvel entretien de Maël Vial. Bonjour Maël.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir non pas un, mais deux invités qui construisent ensemble une œuvre entre recherche en sciences sociales et création artistique. Bonjour Manon Hoth et Grégory Cohen.
Bonjour.
Bonjour.
De Sandré Dobrez, c'est le titre du long métrage documentaire que vous avez réalisé, Manon Hoth, et qui est sorti le 25 septembre 2019. Grégory Cohen, vous avez collaboré à ce film, décrit comme un portrait sensible et politique des cités des Mureaux, banlieue populaire située en bord de Seine dans les Yvelines. Un film en noir et blanc, nous y reviendrons, où vous donnez la parole à plusieurs générations d'habitants de cette ville, entre histoire ouvrière, d'immigration et de combats sociaux. Un film donc, mais aussi un passionnant livre que vous avez écrit, Manon Hoth, et qui retrace à la fois l'histoire des banlieues populaires, de leur lutte, de leurs habitants, et d'un autre côté, un carnet de tournage de votre film, avec de riches illustrations issues de ce dernier. En tant qu'enseignant-chercheur au laboratoire de sociologie à l'université d'Evry, vous travaillez tous les deux sur les Mureaux, où vous aviez habité un an. À ce propos, Grégory Cohen, vous avez réalisé en 2017 La Cour des Murmures, film entre documentaire et fiction mettant en scène le double thème de l'amour et de la jeunesse. Nous pouvons aussi évoquer Narmada, un film tourné en 2012 en Inde, par vous deux, sur le fleuve du même nom, à la rencontre des habitants, de leurs croyances et de leur lutte contre un barrage. Les bandes-annonces de Sandré Dobrez et de vos précédents films peuvent être visionnées sur notre site négatif.co pour mieux visualiser votre travail d'image et de son. Vous avez également réalisé des photographies et être engagé dans plusieurs collectifs, comme l'ETNA, atelier de cinéma expérimental, que nous avons déjà évoqué dans les épisodes 6 et 8 de l'émission avec Johanna Vod et Pip Chodorov. Votre travail créatif en binôme depuis 10 ans, ce dialogue entre recherche et cinéma, entre sociologie et art, entre immersion et engagement, nous allons parler de tous ces sujets avec vous dans le 13e grand entretien de Négatif.
Tout d'abord, pour mieux cerner qui vous êtes, Manon Hoth et Grégory Cohen, peut-on vous qualifier de chercheur cinéaste ?
Oui, de chercheur et oui, parce que on est, comme le disait Thibaut, on vient tous les deux d'un double parcours de recherche en sciences sociales et de réalisation de films.
Et du coup, c'est ce film de Sandré Dobrez et le film La Cour des Murmures. C'est deux films qui ont un peu cette particularité de dialoguer avec un écrit, parce que c'est des films qui ont été faits dans le cadre d'une recherche de thèse entre sciences sociales et cinéma.
Et entre recherche et création.
Voilà, donc c'est vrai que c'est un terrain qu'on explore. Quels sont les dialogues possibles entre la recherche et la réalisation de films, et quels sont les dialogues possibles aussi entre film et écrit.
Donc vous êtes à 50% chercheur, 50% cinéaste.
C'est compliqué de dire des choses comme ça, surtout que en fait, notre façon de faire de la recherche passe par le film. Moi, la thèse que j'ai soutenue, ça s'intitulait « Filmer, chercher ». C'est-à-dire que le fait de... En fait, on fait aussi des films de recherche et notre façon d'enquêter et d'écrire se fait avec l'écriture cinématographique. Donc, c'est beaucoup plus imbriqué que dire qu'on serait d'un côté chercheur, de l'autre cinéaste. C'est vraiment... Ça s'imbrique et...
C'est une autre forme d'écriture de la recherche, en quelque sorte. C'est-à-dire que vraiment, à la fois dans le processus d'enquête, on va réfléchir à partir des images et avec les images. Et en même temps, dans la restitution, du coup, donc il y aura à la fois cette forme film et en même temps en écrivant. Donc c'est vrai que ce serait bizarre de faire des distinctions entre les deux.
Est-ce qu'on peut parler aussi de sociologie visuelle ?
Alors, on parle plus de sociologie filmique, parce que sociologie visuelle, du coup, c'est vrai que ça couvre un champ très large qui, à la fois, touche à la photo et en même temps au cinéma, et qui, en plus, est pas mal, enfin, dont la grande partie est basée sur l'analyse d'images. Nous, c'est vrai que c'est vraiment, notre pratique de recherche est vraiment basée sur la réalisation d'images, la fabrication d'images. Donc, En ça, du coup, on parlerait plus de sociologie filmique. Même si après, enfin bon, mais ça, c'est comme toute recherche en sciences sociales. Du coup, nos recherches, elles font appel aussi bien à l'histoire qu'à la sociologie, qu'à l'anthropologie.
La philosophie.
Donc en fait, c'est vraiment plus, c'est un dialogue plus entre sciences sociales et cinéma.
Et les films eux-mêmes sont des films de recherche, mais aussi des films de cinéma.
Et donc, le dernier film de cinéma que vous avez fait et dont nous avons parlé, c'est « De cendres et de braises », sorti ce 25 septembre au cinéma et accompagné d'un livre. À la rencontre de plusieurs habitants des quartiers HLM des Mureaux, vous avez enquêté sur l'histoire de ce territoire et de ses luttes. Grâce à ce travail, vous avez pu réunir dans le livre et dans votre thèse, et puis d'un autre côté dans le film, de nombreuses paroles qui racontent les Mureaux, la démolition et la rénovation urbaine, l'histoire ouvrière et d'immigration, les combats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Vous décrivez ce film comme quelque chose qui a dépassé votre travail de recherche en sciences sociales ou votre travail de cinéaste. Ensemble, vous avez commencé à travailler au Mureaux en 2011 et le film a été achevé en 2018. Vous avez notamment habité dans un des quartiers des Mureaux pendant un an entre 2013 et 2014, où vous avez pu tourner une grande partie du film. Pouvez-vous nous raconter les grandes étapes de cette expérience de vie entre recherche et cinéma ?
Bah alors c'est vrai que ça faisait à l'origine, ça faisait plusieurs années qu'on avait qu'on partageait ce projet d'essayer de travailler sur un temps long dans une cité, parce qu'on avait déjà eu l'occasion, à la fois parce que du coup on habite en région parisienne, mais aussi parce qu'on avait eu l'occasion de faire des ateliers dans des classes ZEP. On avait l'envie d'approfondir en fait ces expériences et de pouvoir passer du temps sur un temps long du coup. Pour prendre le temps de réfléchir et comprendre dans cette complexité en fait la réalité d'une cité. Et donc c'est pour ça que à l'occasion de ces thèses en fait on a choisi de travailler aux Mureaux. Et surtout le projet de départ c'était d'essayer de travailler avec les habitants de ces quartiers. Donc on a d'abord été régulièrement aux Mureaux. On a fait une enquête de terrain. Finalement assez classique au départ, hein. C'est-à-dire qu'on a rencontré différentes personnes sur la ville, enfin aussi bien les habitants, enfin que aussi des gens qui travaillent dans la ville, les gens de la mairie, tout ça. On a fait plusieurs entretiens, on a fait des longues observations en fait, et petit à petit, ce qu'on a essayé de faire surtout, c'est d'essayer de s'investir le plus possible dans la vie locale pour faire des rencontres. Et donc, on a participé à la vie associative du quartier. On a collaboré avec eux. On a notamment, ça nous est arrivé même de partager un peu nos savoir-faire. On a réalisé différentes vidéos pour des associations. Et petit à petit, le temps avançant, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que pour vraiment essayer de nouer d'autres liens avec les gens et introduire la question du film, il fallait qu'on passe plus de temps sur place. C'est ce qui nous a motivés du coup à rester sur place, d'autant plus que les Mureaux, c'est pas très loin, mais en même temps c'était suffisamment loin de chez nous du coup, ce qui fait qu'on pouvait y rester que la journée, et du coup ça nous semblait intéressant d'y aller en dehors de temps de bureau en quelque sorte. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi d'y habiter pendant un an. C'est pendant cette année où on s'est encore plus investi dans des projets autour de l'image, parce que c'est vrai que on le savait déjà avant de mettre les pieds au Mureaux, mais on se rendait bien compte qu'il y a un rapport à l'image qui est très complexe dans ces lieux-là. Et pour de bonnes raisons, parce que c'est des lieux où il y a déjà beaucoup d'images qui ont été produites. C'est vrai qu'il y a un espèce d'imaginaire, comme ça, on pourrait dire, sur les cités. Et duquel il est très difficile de se détacher. C'est-à-dire que même souvent, au départ, nous, on ne connaissait pas grand monde avant d'arriver aux Mureaux. Et quand on présentait notre travail, même si on se présentait en tant que chercheur ou si on se présentait en tant que cinéaste, et très souvent, notre travail était assimilé à celui des journalistes. Parce que du coup, c'est principalement en fait, avec ce genre d'acteurs en fait, que les habitants ont l'habitude d'interagir. Et donc, c'est vrai que nous, on a essayé vraiment de trouver des moyens de sortir de ce rapport-là pour nouer un autre lien autour des images. Et donc c'est que en construisant des images avec les gens, par exemple, on a fait des expositions photos avec les habitants, qui ont été couverts sur différents murs du quartier. C'est un projet qu'on avait mené avec le centre social. Et c'est que en s'investissant dans ce genre de projet, en montrant quel était le genre de travail qu'on faisait, en fait, qu'on a réussi à nouer d'autres liens. Et c'est petit à petit. Donc tout ça a duré plusieurs années. Du coup, ça a duré environ 3 ans. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on a commencé vraiment à penser nos films et à rentrer dans la fabrication des films.
Parce que petit à petit, au fil de ces années et de ces projets, il y a des rencontres et des liens plus forts qui se sont noués avec certaines personnes qui sont elles aussi devenues petit à petit des personnages d'un film en devenir. Et puis, ce temps long de l'immersion et aussi ces projets autour de l'image, de la photo qu'on a mis en place avec les habitants, ça a permis aussi de faire que petit à petit, un désir commun, un désir partagé, un désir de film qui puisse naître et qui rende les films possibles. Et ça nous a permis, c'était aussi un temps qu'on appelle de repérage ou de mieux comprendre l'histoire du territoire, de mieux comprendre la vie quotidienne là et donc d'écrire nos films.
Justement, à propos de Sandra Debrez, à quel moment vous avez arrêté votre travail de préparation et vous avez commencé vraiment à faire le film et à prendre des images qui seraient utilisées pour vous dans le montage final?
Alors, c'est compliqué de délimiter autant, parce que les images les tournées le plus tôt qu'on voit dans le film, c'est des images qui datent de 2011. C'est des grèves devant l'usine de Flin. Et en fait, ça faisait très peu de temps qu'on commençait à travailler au Murau, mais à un moment, et moi, j'avais pas du tout l'intention de filmer tout de suite pour le film en devenir. Je voulais d'abord passer du temps et dans le quartier, en immersion. Mais à un moment, quand ces grèves se sont présentées, fallait y aller. Enfin, y aller peut-être pas en avoir d'autres, y aller. Et donc, je les ai filmées plus dans un souci de... Là, je me dis, il faut garder une archive de ce moment-là.
D'urgence aussi.
Oui, d'urgence et une nécessité absolue là, de filmer. Et après, les images qui datent les plus tardive dans le film, elle date de 2015. Mais en fait, le plus gros du tournage s'est fait l'année où on vivait au Murau, c'est-à-dire en 2014, après 3 ans où on avait pris le temps d'enquêter sur le territoire, de recueillir des récits de vie, de travailler sur les archives, de rencontrer les gens, de travailler avec les associations. Et voilà, c'est vraiment... Donc, il y a eu d'abord la phase de préparation et à un moment dans cette phase de préparation, un film s'est dessiné, des relations avec les uns et les autres plus fortes se sont nouées. Et puis c'était vraiment avec chaque personnage, c'est en fonction de notre rencontre et notre relation que il y a des moments où on était prêts à filmer, à faire quelque chose ensemble. D'autres, ça a pu être 6 mois plus tard. Enfin, ça dépendait vraiment des relations avec chacun des personnages.
Plusieurs personnages justement se détachent dans le film. On peut noter les 3 anciens de l'usine Renault: Fabienne, Jama et Monsieur Sacco, le collectif engagé des Kroms avec notamment Mao, ou encore Yannick, Antoinette et Mohamed, 3 profils de l'histoire ouvrière et de l'immigration qui appartiennent, comme vous l'avez dit, à différentes générations. Il y a une multitude de personnages. Est-ce que vous avez d'abord cherché à créer un récit commun à ces personnages qui se succèdent avec leurs propres histoires?
Alors, ça m'intéressait en effet que le film soit par fragments, qu'il y ait une diversité d'histoire et de parcours de vie, de personnalité. J'avais vraiment envie que le film tisse des liens, en plus, entre le passé et le présent, enfin, entre l'histoire de l'usine et l'histoire de la cité. Et en même temps, en les reliant dans un film et en faisant qu'on circule assez aisément dans le film et aussi dans la nuit, de l'un à l'autre, parce que le film se passe une partie de nuit, c'est parce que j'avais aussi cette volonté de faire sentir le poids d'une histoire collective commune et de repenser le commun à cet endroit, tout ce qui lie ces personnes, que parfois on oublie, que le monde de l'usine et celui des cités, ils sont intrinsèquement, historiquement liés, que des générations, les anciens ouvriers de l'usine et puis les jeunes qui grandissent dans ces cités, il y a aussi beaucoup de liens. Les jeunes sont aussi les héritiers de cette histoire-là. Et c'est des liens qu'on ne fait plus trop et que j'avais envie de refaire à travers le film. Donc il y a à la fois des histoires singulières, mais il y a une trame de fond, une histoire collective qui est aussi là, présente.
Mais que vous ne vous rappelez pas, par exemple, avec des cartons ou avec une voix off, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dissimulé.
Oui, qui est... effectivement, dans le film, il n'y a ni voix off, ni carton, ni moi, j'apparais pas non plus. C'est un film qui est... ça se passe beaucoup plus, c'est beaucoup plus suggéré, c'est plus subtil. C'est pas un film avec un discours asséné ou c'est un film qui passe par le sensible, plus par la poésie, par des rencontres humaines. Et
même si la structure du film et le mouvement part de cette histoire commune à chacun des personnages, enfin le film tel qu'il a été pensé au montage du coup, fait ce chemin de l'usine vers la cité, des luttes passées vers les autres formes d'engagement politique qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est pas un discours qui est construit par une voix ou des cartons, etc. Mais malgré tout, les scènes sont organisées de telle façon que, en fait, cette histoire collective, elle se dessine quand même, elle est présente tout au long du film.
Chaque personnage a son propre univers, ses propres références, son histoire en tant qu'individu, au-delà du récit collectif. Peut-on dire qu'ils vous ont accompagné dans une forme de mise en scène et vous ont influencé dans la façon de les filmer?
Oui, complètement. C'est-à-dire qu'avec chacun, on a essayé de réfléchir ensemble à la mise en scène, de la penser en dialogue, en fonction de qui ils étaient les uns et les autres, quelle était leur histoire, quels étaient les lieux dans lesquels ils pouvaient se sentir à l'aise pour filmer et quels étaient les lieux qui allaient raconter quelque chose d'eux, de leur intériorité. Par exemple, pour Momo, ça s'est trouvé qu'on s'est dit qu'on allait filmer une nuit à côté d'un feu. Ça lui parlait beaucoup. Yannick, qui est un jeune rappeur, pour lui, le lieu qui lui semblait le plus adapté, le plus cinématographique et qui allait le permettre le plus facilement de parler ou de rêver, c'était de monter sur le toit de la tour, d'une des tours de la cité où il avait grandi. Antoinette, ça a été d'aller aussi en lisière de quartier au bord de l'eau. Donc c'est vrai qu'avec chacun, on a essayé de penser ensemble, en dialogue, la mise en scène, et surtout d'essayer d'utiliser la mise en scène, le travail des images et des sons, pour faire émerger, pour nous laisser surprendre et faire émerger, créer un espace pour des paroles qu'on entend peu.
Et sachant que aussi, comme dans les ateliers quand on a préparé la cour des murmures, pour De Sandre et De Braise, on a régulièrement montré des images tournées aux différents personnages avec lesquels on travaillait. Et ça nous semblait important justement d'essayer de nouer ce dialogue autour des images, d'essayer de penser en fait certains des éléments de mise en scène avec eux.
Dans le livre qui retrace l'expérience de Sandre et De Braise, vous citez le réalisateur américain John Cassavetes à propos de ce que peut le cinéma dans la création d'un espace de rencontre et de parole. Cassavetes disait à propos de son film Shadows qu'un certain temps était nécessaire pour que les gens ne passent pas du côté de la caméra sans que la caméra ne soit passée du côté des gens. Est-ce que vous avez réussi, vous, à ce que votre caméra soit, elle, du côté des gens?
Mais j'espère. Enfin, en tout cas, c'était l'objectif.
C'est la préoccupation.
L'envie, c'est... Comment?
Non, je dis oui, c'est la préoccupation, comme une préoccupation constante.
Que ça soit... On avait vraiment ce désir très fort de faire des films avec les gens, surtout parce que, enfin, comme le disait tout à l'heure Grégory, c'est qu'on était à un endroit où jusque-là, les habitants avaient plutôt une impression que quand des images sont fabriquées et parlent de la vie dans le quartier, c'est des images qui jouent contre eux. C'est des images qui stigmatisent, c'est des images qui leur échappent. Ils ont rarement la parole, ils sont plus parlés par d'autres, par les journalistes, par les chercheurs, qu'ils ont l'occasion de parler, de raconter eux-mêmes leurs histoires. Du coup, il y avait un vrai enjeu à prendre un peu un contre-pied et à essayer de faire ensemble des images et d'aller de créer un espace pour que chacun des personnages puisse raconter lui-même son histoire et sa façon de voir le monde. Donc l'idée, c'était que la caméra soit du côté des gens.
Il y a un autre terme et une autre citation à ce propos-là que vous utilisez dans le livre et que je trouve très belle, c'est le terme de fabulation. Et vous l'utilisez pour décrire la manière dont les habitants des Mureaux que vous filmez mettent en forme de récit fictionnel leur propre vie et créent un contre-discours. C'est un concept du philosophe Gilles Deleuze. Dans quel sens le comprenez-vous et à quel moment de votre tournage l'avez-vous vu apparaître le plus clairement?
Alors, je dirais pas forcément que c'est un récit... Dans De Sandre et De Braise, c'est pas un récit fictionnel. Parce que les paroles des personnages, elles, c'est des paroles vraies. Moi, la fabulation, je l'ai plus entendue, ou alors je l'ai revisitée, on pourrait dire, plus comme la quête d'une parole alternative par rapport à un récit dominant, la quête d'autres paroles, de discours qui peuvent être contre-hégémoniques, d'une parole qui est typiquement cinématographique et qui émerge dans un film, dans la rencontre entre un réalisateur et ses personnages, grâce à la mise en scène. Par exemple, cette fameuse scène où pendant la nuit, Momo se met toute une nuit à parler à côté de son feu et qui commence à raconter son histoire et à rêver en parlant, il parle de sa propre histoire à lui, il en vient à porter un discours collectif et politique beaucoup plus large sur la société, en formulant même une forme de critique assez radicale de la société de consommation. Pour moi, il y a quelque chose qui se produit lors d'une parole typiquement cinématographique. Alors, je ne dirais pas qu'il fabule au sens où, à ce moment-là, il n'invente pas quelque chose. Il rêve effectivement une autre société, mais ce n'est pas du mensonge. Mais il y a quelque chose qui se produit qui est aussi lié au cinéma. Parce que, par exemple, avec Momo, on s'était rencontrés pendant des mois et des mois avant de tourner cette séquence. Donc, on avait déjà eu beaucoup d'entretiens ensemble. Et ce soir-là, il se passe quelque chose de complètement différent, qui est assez magique.
Vous l'aviez filmé avant ?
Avant, je ne l'avais pas filmé, non. Et du coup, je pense que justement, c'est pour ça, c'est devant la caméra, avec cette mise en scène, avec le choix de filmer la nuit à côté d'un feu, il y a quelque chose qui se produit, qui est propre à une expérience cinématographique partagée, qui fait qu'on atteint, on trouve une autre parole. Et quand Deleuze parlait de la fabulation, alors lui, il faisait au départ surtout écho au film de Jean Rouch ou de Perrault, où c'était les concernés eux-mêmes, les filmés, qui inventaient des histoires, des fables, ou qui rejouaient des pratiques ancestrales. Il a aussi parlé de fabulation pour un très beau film de Shirley Clarke qui s'appelle Portrait of Jason, où en fait c'est une nuit entière, Jason qui est dans sa chambre et qui répond à Shirley Clarke derrière la caméra, qui lui raconte sa vie. Et en lui racontant sa vie, bah, il en vient à nous parler de la société dans laquelle on vit, à porter un regard critique. Et du coup, c'est quelque chose qui se produit, qui est... Deleuze, il parlait d'énoncé typiquement, proprement cinématographique. Et de récit alternatif, du récit, la fabulation, pour lui, c'était forcément le récit aussi des opprimés. Donc c'est là que moi, je voyais des liens.
C'est-à-dire, c'est des énoncés qui s'inventent dans la rencontre entre le cinéaste et les filmés.
Et chacun faisant un pas vers l'autre, et même se transformant dans cette rencontre. Mais ce qui est important, c'est que pour lui, la fabulation, ça pouvait être que le récit des opprimés, jamais celui du dominant.
Et vous pensez justement que le cinéma, ça peut permettre une approche plutôt sensible, plutôt par le bas, qui doit nourrir les sens sociaux et être tenu en compte dans leur démarche ?
Alors, moi, je crois profondément dans l'intérêt de la rencontre entre art et recherche, et notamment sciences sociales et cinéma, et entre recherche et création. Et notamment parce qu'effectivement, ça vient bouleverser des façons de faire de la recherche, mais peut-être aussi des façons de faire des films. Enfin, il y a quelque chose qui vient se nourrir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut, dans les sciences sociales, en termes de méthode, d'analyse rigoureuse, critique, dialectique, qui peut venir nourrir un regard. Dans le cinéma, il y a beaucoup dans ce travail justement de création qui peut être partagé avec d'autres, et dans le fait que par le film, on donne à entendre d'autres voix, on peut montrer d'autres visages. Ça vient effectivement démocratiser potentiellement quelque chose. Moi, je dis souvent que le film permet une forme d'écriture à plusieurs voix. C'est-à-dire qu'un film, c'est évidemment le regard de son auteur, mais on entend d'autres paroles. Enfin, il y a une forme de polyphonie. Par exemple, dans De Cendre et de Braise, il y a une sorte de polyphonie. On entend les voix et les discours des personnages. Il y a évidemment mon regard. Mais voilà, ça permet cette écriture qui est, par certains aspects, qui peut être moins surplombante que parfois un travail plus classique. En tout cas, voilà, il y a une dimension de aussi partager, parce que faire un film ensemble, il y a forcément... quelque chose, ça demande une telle implication à tous ceux qui participent. Donc il y a forcément une dimension assez collective et partagée qu'on ne trouve pas forcément dans un travail plus classique. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui, dans la rencontre entre recherche et création, sciences sociales et cinéma, en quoi ça nous déplace, en quoi ça déplace notre regard, comme nos façons de faire des films ou de la recherche, et d'essayer d'avoir une réflexivité là-dessus. Voilà.
Et justement, à propos de cette polyphonie, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur ce film, y compris des personnes qui n'ont pas fait votre travail de recherche, qui n'étaient pas sur le terrain. Il y a de la musique, free jazz par exemple, vous avez travaillé avec un compositeur, vous avez travaillé avec une monteuse aussi qui a peut-être été externe à votre travail d'enquête. Comment il se passe le dialogue avec ces personnes-là ?
Avec les uns les autres, à chaque fois c'est des histoires de rencontres. Alors, on était une petite équipe, mais on a passé, par exemple avec la monteuse, on a travaillé des mois et des mois ensemble. Elle a vraiment essayé de chercher à comprendre devant la matière qui était là et en m'écoutant, quel avait été le processus de travail, qu'est-ce que je cherchais, mais pour quelque chose qui était vraiment de l'ordre de l'essence de la façon dont j'avais travaillé au Mureau et dont j'y avais rencontré des gens, puis se retrouver dans le film qu'on était en train de monter ensemble. Donc il y a un dialogue et évidemment tous ces regards extérieurs qui viennent participer, ils viennent enrichir le film. Je ne sais pas si ça répond à la question.
C'est-à-dire que ce qui t'intéresse aussi dans ces collaborations, c'est que les personnes, ils investissent le film aussi de leur regard et de leur façon de voir les choses. Parce que du coup, c'est vrai que quand on fait un film, du coup, on est très pris dans des questionnements, et qui ne sont pas forcément toujours ce que racontent du coup, les images qu'on a tournées. Donc toi, t'attendais et de Pascal, donc, qui a fait le montage, Pascal Anoyer, et de Akoche, qui a fait la musique. T'attendais qu'ils puissent apporter leur regard, leur univers, pour investir le film.
D'accord. Et c'est vrai que c'est une forme plutôt concise, de 1h15. Est-ce que vous aviez la possibilité ou la volonté de le rallonger un petit peu?
Ça, c'était une vraie question. C'est qu'il y avait beaucoup de matière, il y avait près d'une centaine d'heures de rush, beaucoup de matière très forte. Il y a beaucoup de choses dans les matériaux, dans les paroles, et ça n'a pas... Il fallait faire des choix. Et ça, on s'est posé la question à un moment, est-ce qu'on aurait pu faire un film beaucoup plus fresque de 3 heures? Et finalement, voilà, à force de montage, le film a trouvé, ça, je pense, une... Il aurait pu avoir un autre film, mais ça aurait pas... Là, il a trouvé... Une durée, et puis un rythme et une temporalité propre qui permettaient de rester dans des... Qu'avec chaque personnage, il y a un moment presque unique de rencontre et d'intensité. Peut-être que si ça a été plus long, ça aurait dit... les choses auraient été plus diluées. C'est peut-être pas inintéressant, mais ça aurait été en tout cas un autre film.
C'est le film qui a choisi sa durée.
En fait.
Le deuxième film que nous allons évoquer, justement, précède de Sandre de Braise. Et a été tourné aussi au Mureau, c'est La Cour des Murmures que vous avez réalisé, Grégory Cohen, et qui est sorti en 2017. Vous l'avez tourné avec des jeunes des Mureaux rencontrés lors d'ateliers de cinéma. Il aborde notamment les questions d'amour, des relations entre les garçons et les filles, et la manière dont elles sont perçues au sein de la cité. Derrière ce sujet documentaire, le film prend la forme d'un film dans le film, et vous le décrivez ainsi comme un film expérience entre fiction et documentaire qui propose à 6 jeunes de jouer leur vie à partir d'une esquisse de scénario autour des jeunes et de l'amour dans la cité. Comment s'est construite cette forme hybride?
Alors, c'est vrai qu'un des enjeux du film et même de la recherche qu'on a pu mener tous les deux sur place, c'était vraiment comment essayer de co-construire les images qu'on va faire, qu'on va tourner avec les gens. Et donc, ça a été le cas du coup pour De Sandre de Braise, mais également pour La Cour des Murmures. On a vraiment essayé de trouver des formes de mise en scène qui nous permettaient du mieux qu'on pouvait en fait d'impliquer les filmer dans le processus de fabrication du film. Et donc pour ce film, on a commencé par mettre en place des ateliers qui étaient des ateliers qui étaient hors temps scolaire et qui étaient réalisés au centre social. Et donc on avait fixé un rendez-vous hebdomadaire avec un groupe de jeunes qui avaient en gros on va dire 15 et 18 ans à peu près, en leur proposant d'essayer d'imaginer un film qui raconterait leur vie et qui parlerait des relations filles-garçons. Et c'était pas un atelier d'écriture, on se mettait tous autour d'une table, mais l'idée c'était plutôt à travers à la fois de discussions qu'on avait avec eux et d'improvisation, qu'on a imaginé des séquences et un possible film. Ça a duré assez longtemps, ça a duré 6 mois, où on a rencontré plein de jeunes différents, parce que, étant donné que c'était hors temps scolaire, c'est vrai que c'était des groupes à géométrie variable. Et à l'issue de ces 6 mois, on pensait tourner un film avec les jeunes des ateliers, mais pour des raisons diverses, on n'a pas été jusqu'au bout de cette expérience, parce que 6 mois pour eux, c'était un peu long, ils avaient pris beaucoup de plaisir à faire les improvisations, mais ils se rendaient compte que fabriquer un film, le tourner, c'est quelque chose qui demandait du temps et du travail. Or, du coup, là, on était en plein mois d'été et ils se disaient qu'ils avaient plein d'autres choses à faire et pas forcément l'envie, en fait, d'aller se lancer, d'aller travailler dans l'été pour tourner un film. Donc, à partir des ateliers, à partir de là, on a repris un peu toute la matière qu'on avait fait dans les ateliers et on a écrit une histoire, enfin un scénario qu'on a ensuite proposé à un autre groupe de jeunes que cette fois-ci on a choisi. Parce que c'est vrai que pendant les ateliers, c'était vraiment plutôt... ça reposait sur la libre adhésion. Et du coup, on a travaillé avec les jeunes qui fréquentaient le centre. Alors que là, pour ce film, on voulait plutôt choisir les gens avec qui on travaillait. Donc, on a mené un casting avec, en gros, une soixantaine de jeunes. Et au final, on en a choisi 6. Et on l'a proposé à ces jeunes de jouer du coup l'histoire qu'on avait écrite, mais avec beaucoup de liberté. C'est-à-dire que vraiment l'idée, c'était quel était le film qui allait s'inventer au moment du tournage. Et donc c'est un film qui laisse beaucoup de place à l'improvisation, parce que donc, ça part d'une histoire écrite, hein, un scénario, donc on est presque proche d'un film qui serait plus de la fiction. Mais en même temps, la visée du film, j'ai envie de dire, était plus documentaire, parce que vraiment ce qui nous intéressait, c'était qu'est-ce qui allait émerger au moment du tournage, qu'est-ce qui allait s'inventer sur le tournage. Donc c'était vraiment l'idée d'ouvrir le plus de brèches possible dans l'histoire qu'on avait écrite, pour que voilà, qu'il y ait un film qui s'invente au tournage.
Et pourquoi vous avez décidé, vous, de pas trancher entre réalité et fiction?
C'est-à-dire que la fiction, finalement, c'était plus un prétexte pour rencontrer les jeunes et pour les impliquer dans le film. Hein, parce que au départ, en commençant les ateliers, on s'était bien rendu compte que leur désir, il n'était pas vraiment du côté du documentaire, mais plus de la fiction. Hein, faire un film sur leur vie en documentaire, ils auraient trouvé ça bizarre. Alors que la fiction, c'était la possibilité de s'inventer des vies, des personnages, et donc il y avait quelque chose qui les excitait beaucoup plus là-dedans. Et donc c'est vrai que
c'était plus qu'un prétexte. C'est pas juste un prétexte, c'est parce qu'il y avait un vrai désir et de la part des jeunes de s'essayer et de jouer le rituel du cinéma et de toi aussi, d'expérimenter quelque chose justement sur ces frontières.
Oui, mais je veux dire,
ces gens sont quand tu dis prétexte. Ça...
Mais c'est-à-dire que prétexte, c'était dans le sens où, du coup, moi, ça ne m'intéressait pas d'écrire des rôles pour ces jeunes, enfin, de les enfermer dans mon imaginaire, leur imposer un rôle. Et voilà, moi, le film, c'était un prétexte pour pouvoir les connaître. Donc, c'est vrai qu'en ça, du coup, ce qui m'intéressait, c'était quelle est l'expérience humaine qui allait advenir au moment du tournage. Et non pas, du coup, venir leur proposer un rôle auquel ils devraient se tenir. Moi, ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui nous échappait, en fait, finalement. Donc, c'est pour ça que c'était l'expérience humaine qui était au centre. Et donc, c'est ma préoccupation, elle est plus... Enfin, je ne sais pas si documentaire c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est voilà. Enfin, c'est quelle est comment on peut attraper cette réalité humaine à partir d'histoires qu'on invente.
Ouais. Comment vous répartissez les rôles sur le tournage? Est-ce que vous êtes toujours à deux?
Alors, c'est deux configurations très différentes. Parce que De Sandré de Bresse, c'est un film qui s'est vraiment tourné sur le temps long donc d'une immersion dans ces quartiers des Mureaux, puisque le film fait le portrait, revisite l'histoire du territoire, qu'on y rencontre différentes générations. Et c'est un film qui est monté par fragments. Chaque fragment, c'est une nouvelle rencontre. Et du coup, ce temps long, c'était pour pouvoir filmer comme ça et avoir beaucoup de liberté pour expérimenter, pour chercher en faisant. C'était bien d'être en petite équipe, comme on a eu l'habitude déjà dans le passé de tourner. C'est-à-dire qu'on était à deux à se partager l'image et le son.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a commencé à faire du cinéma ensemble, à deux. Enfin, à la base, on vient tous les deux de la photographie. On avait fait de la photographie. Au début, c'était plus une passion en parallèle de nos études. On a eu l'occasion de faire un travail photo un peu plus sérieux entre quoi, 2002 et 2007. Ouais, c'est ça. Donc, c'était un travail photo en Birmanie qui a donné lieu à un livre qui s'appelle Birmanie, rêve sous surveillance. Et à partir de là, en fait, on a voulu passer au cinéma. On a découvert le cinéma et c'est vrai qu'on a commencé en fait à... Voilà, enfin, on a commencé comme ça, en se partageant donc l'image et le son, enfin, sachant qu'on avait quand même, enfin, même si on aime beaucoup le son, on avait quand même tous les deux ce goût et cette attirance pour l'image. Donc sur tous les films qu'on a fait, en fait, à chaque fois, on s'est partagé, la caméra. Et voilà, et c'est vrai que c'est un mode de travail qui nous convient bien. Pour La Cour des Murmures, justement, c'était assez différent parce que donc là, on est sorti un peu de notre petit cocon. Il y avait une équipe un peu plus importante. Il y avait une dizaine de personnes pour l'équipe technique qui était là. Et c'est vrai que donc, moi, voilà. Enfin, vu que les improvisations, ça demandait beaucoup d'être très présent, etc. Du coup, ça me semblait compliqué d'être derrière la caméra. Et donc, Manon était derrière la caméra avec une autre personne qui s'appelle Anna Salzberg. Du coup, parce qu'on voulait que plusieurs scènes soient tournées avec deux caméras. Donc voilà, enfin, ça me semblait très important que ça puisse être voilà, enfin, des personnes qui ont cette sensibilité, un peu de, enfin, qui ont l'habitude de tournage plus documentaire, ou du coup, enfin, qui pourront peut-être plus facilement répondre à ces formes, enfin, à savoir capter en fait ces formes improvisées. Mais voilà, mais c'est vrai que ça a changé un peu l'équilibre, en tout cas, d'avoir, même si Manon était à l'image, etc., enfin, quand, ça a changé l'équilibre de devoir intégrer beaucoup plus de gens. Et bon, à la fois, c'est chouette parce que ça permet de faire des trucs qu'on ne peut pas toujours faire à deux. Et en même temps, c'est vrai que c'est une contrainte parce que être en équipe, ça veut dire, ça demande plus d'organisation. Et alors que c'est vrai que nous, tout le cinéma qu'on avait fait jusque-là, c'était un temps qui se passait beaucoup dans les temps creux. Parce que c'est-à-dire qu'on avait tout notre temps. Donc, on passe du temps avec les gens qu'on filme. Et petit à petit, bah, des choses s'inventent sur le moment du tournage. Alors là, du coup, dans la cour des murmures, le fait de s'être retrouvé avec une équipe où il faut s'organiser, où il y a un plan de travail, des horaires à tenir, tout ça, etc. Bah, c'est vrai que ça a été différent et je ne sais pas si on va être... enfin, dans le futur, on va être amené à renouveler forcément ce genre d'expérience parce que du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que d'avoir cette possibilité de passer du temps, comme ça a été le cas dans De Cendre et de Braise, ça permet de capter des choses qu'on peut plus difficilement capter en équipe.
Et d'expérimenter, de tâtonner, de chercher en faisant aussi. Pour ça, il faut du temps et c'est vrai que c'est... Enfin, sur le tournage d'un film documentaire, ça fonctionne bien en toute petite équipe.
À quel moment vous avez décidé justement qu'il était venu le moment de tourner en équipe ?
Bah, donc, De Cendre et de Braise, il n'est pas tourné... Enfin, l'équipe, c'est nous deux. et c'est au moment du montage où là, il y a une monteuse, moi, qui a travaillé avec moi, puis un monteur son, un mixeur, mais on est vraiment une petite équipe. C'est un film qui est très artisanal dans sa forme. Et La Cour des Murmures, ça s'est décidé... très vite, à partir du moment où il y a eu un scénario et on savait ouais. qu'il fallait une équipe voilà, plus grande parce qu'il y avait un dispositif voilà, de fiction.
Et qu'on avait expérimenté en atelier ce dispositif. Et parce que oui, quand on faisait les ateliers, en fait, on filmait à la fois les discussions qu'on avait avec les jeunes et les improvisations qu'on faisait avec eux. Et pour leur montrer ensuite et du coup alimenter justement l'écriture du scénario. Et donc, quand on filmait les improvisations, c'est des ateliers qu'on a menés que tous les deux. On s'était bien rendu compte que, en fait, il y avait trop de choses à faire en même temps. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois diriger, entre guillemets, les comédiens, enfin, discuter avec eux de ce qui est en train de s'inventer. En même temps, penser aux histoires de son, d'image. En plus, c'était beaucoup de discussions en groupe. Ça veut dire enfin, très difficile, du coup, pour prendre le son. Cette expérience nous avait donné l'intuition que c'était quand même pour arriver au résultat qu'on cherchait. Du coup, c'était mieux de travailler en équipe. Même si voilà, enfin, on se lançait dans quelque chose qui finalement on ne connaissait pas du tout. Hein. Et c'est vrai que peut-être avec le recul aujourd'hui, peut-être qu'il y a d'autres formes à inventer. En fait, des moments en équipe et des moments du coup, on peut peut-être retrouver cette légèreté et être que tous les deux.
Est-ce que vous considérez faire du cinéma engagé, politique et ou militant ?
Oui, je dirais que oui, qu'il y a une, enfin, dans tout ça, s'il y a un engagement, on a un rapport entre, il y a des liens, enfin entre, moi j'ai un parcours qui s'inscrit entre recherche, création et engagement. Et alors c'est très large quand on parle de cinéma politique, mais moi c'est un cinéma qui effectivement m'intéresse beaucoup. De le comprendre dans son histoire. Et je pense qu'il y a une dimension politique aussi, évidemment, dans mon travail.
En enquête en sens social, on évoque aussi la relation de domination qu'on peut avoir sur ces sujets d'enquête. Cela peut être aussi le cas dans le documentaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a préoccupé tous les deux ?
Bah bien sûr. Bah, à partir du moment où il y avait cette idée de co-construire du coup, le film avec les filmés, enfin avec les concernés, voilà, c'est d'essayer de trouver des moyens de sortir du regard surplombant qui peut être celui du chercheur ou du réalisateur, même si bon, on n'en est jamais complètement sorti. Et d'ailleurs, je pense que cette question du rapport de domination, elle est beaucoup plus complexe que la domination, enfin, de l'enquêteur sur l'enquêté ou du filmeur sur le filmé, parce qu'en fait c'est voilà, enfin nous il y a plein de moments aussi où c'est nous qui avons, je pense qu'ils se sont retrouvés dans la position du dominé, où les gens en même temps voilà, enfin ils donnent ce qu'ils ont envie de donner, donc c'est
où tu peux être aussi instrumentalisé
du coup,
ce qui est important, je pense, c'est d'essayer d'analyser tout ça, d'en avoir conscience et d'essayer de l'analyser et pour essayer le plus possible de neutraliser, pour essayer de tendre vers des relations plus d'égalité.
À ce propos, dans La Cour des Murmures, vous posez la question de l'altérité d'une façon peut-être plus brutale que dans De Cendre et de Braise. Comme vous le résumez dans un entretien, Grégory Cohen, ce film, c'est par son scénario l'histoire d'un réalisateur blanc et de sa coéquipière qui viennent tourner une adaptation des Liaisons dangereuses avec des jeunes de la cité qui, eux, sont essentiellement noirs. On ne vous voit pas dans le film, Grégory Cohen, mais nous voyons ces deux réalisateurs fictifs. Est-ce que c'est pour vous aussi une mise en abîme de votre préparation du tournage des films ou de votre travail de recherche sur ce terrain ?
Bah alors forcément, du coup, le film s'est inspiré de ce que nous, on a vécu sur place. Donc il y a une part de mise en abîme. Après, voilà, enfin, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un film qui s'est inventé au tournage. Donc finalement, et même qui s'est réinventé déjà dans le scénario, enfin l'ébauche de scénario qui avait été écrite avant le tournage. Malgré ça, en fait, l'histoire que vivent ces deux réalisateurs qui sont un peu des sortes d'alter ego, en effet, elle est différente de ce que nous on a vécu au Murau. L'idée, c'était pas de rejouer en fait exactement tout ce qu'on avait vécu, mais forcément, du coup, c'était un moyen de regarder à distance. Cet échange du coup entre des gens qui viennent pour faire un film et les filmer, parce que je trouve qu'en plus voilà, c'est enfin nous dans toute le, enfin cette expérience d'atelier, j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris en fait dans les échanges que je pouvais avoir avec les jeunes et le regard qu'ils portaient sur nous. Du coup, je le trouvais tout aussi intéressant que ce qu'ils avaient à raconter d'eux. Et c'est d'ailleurs enfin dans le film, il y a plusieurs moments justement parce que donc ce duo de réalisateurs interroge les jeunes un petit peu sur leur vie, sur leurs relations amoureuses, dans différentes séquences du film. Mais à plusieurs moments, les questions, elles se retournent vers eux, vers les réalisateurs. Et moi, c'est vrai que dans le film, c'est les moments vraiment que je préfère. Parce que du coup, à partir du moment où les jeunes se mettent à interroger donc ces deux réalisateurs, donc qui s'appellent Tom et Emma, je trouve que c'est là où ils se racontent le mieux et où il y a parce que on lit leurs préoccupations à travers leurs questions et du coup voilà, finalement dans ce processus de retournement, je trouve que c'est là où les jeunes s'emparent vraiment du film et racontent un peu qui ils sont.
Manouette, à propos de Cendre et de Braise. Vous vous effacez au profit des paroles des habitants des Murau. Vous n'apparaissez jamais, nous entendons vos voix, à l'un ou à l'autre. Nous ne voyons pas votre travail de préparation, comment vous avez noué ces liens. Et pourtant, nous sentons la proximité et la confiance qui vous lie aux habitants des Murau qui racontent leurs histoires. Est-ce que vous êtes effacé lors du montage ou est-ce que c'est un dispositif, une attitude de retrait que vous aviez déjà lors du tournage de ces rencontres ?
En fait, dès le départ, il n'y a aucun moment où j'ai eu l'intention d'apparaître ou à l'image ou à la voix. Je n'avais pas du tout envie d'un film. Ce qui me semblait intéressant dans ce film, c'est les paroles des autres, des gens que je filmais. Et effectivement, je pense que la relation, les liens noués et le temps passé sur place, il transparaît dans ce que les personnages dans les différentes scènes du film offrent comme parole intime, comme parole politique, on sent bien que ça pouvait exister que parce qu'il y a eu une relation et un temps long avant. Moi, j'ai pas senti la nécessité d'apparaître autrement. Enfin, j'ai l'impression que c'est un film qu'on sent qu'il y a quand même un regard très personnel, qu'il y a une écriture très personnelle. Donc j'apparais dans les images, j'apparais par le montage, ce que je rapproche dans le film.
Les choix que vous avez faits.
Les choix, voilà, simplement partout. Donc, et pour moi, c'était suffisant. Et sur la question de la parole, les paroles qui me semblaient essentielles à entendre, c'est celles qu'on entend peu, qui étaient celles des habitants que je rencontrais. Et après, en plus, donc, on s'est souvent, avant de tourner, on se connaissait bien, je connaissais leur histoire, on avait beaucoup échangé. Mais du coup, le jour du tournage, comme je connaissais bien leur histoire, moi, j'étais juste là pour je les guider un petit peu,
les relancer,
mais c'est voilà, c'était juste un travail de relance ou d'acquiescement, de faire sentir que j'étais là, que j'étais présente et très présente et dans une écoute très attentive de ce qu'ils disaient.
Après, il y a aussi des rushs dans le film où on aurait pu construire ta présence, mais c'est vrai que ça n'a pas été pensé comme tel dès le départ. Je pense par exemple à la première séquence qu'on a tournée au Murau, mais qui n'était pas finalement tant que ça destiné au film, mais que je trouve qui est vraiment intéressante aussi, où c'est une séquence qu'on a tournée avec les jeunes de l'association Les Chromes. qui sont une bande d'amis qui a une trentaine d'années et qui mène différentes actions en fait dans le quartier, actions culturelles et sportives dans le quartier. Et à ce moment-là, du coup, Manon leur a demandé quels films eux voudraient tourner au Muro et quelles sont les séquences qu'ils imaginent tourner au Muro. Et là, pour le coup, enfin, dans ce genre de séquences,
qu'est-ce qu'eux auraient envie de raconter
pour raconter leur vie. Ouais. Et donc là, il y a vraiment un échange. Mais c'est vrai que voilà, enfin, c'est apparu comme ça par moment, mais globalement. Dans l'ensemble du film, c'est vrai que ça, il n'a pas été tourné en pensant du coup une mise en abîme de la place de Manon.
Pour 200 degrés de braise, Manon, vous avez fait le choix plastique d'un film uniquement en noir et blanc. Que cherchiez-vous à construire avec ce parti pris esthétique?
C'était une envie que j'avais moi vraiment dès l'origine de tourner ce film en noir et blanc et qui prend un peu sa source dans mon propre rapport, la façon dont j'ai construit mon rapport à l'image, parce que moi je suis arrivée au cinéma par la photographie. J'ai d'abord pratiqué pendant un certain nombre d'années la photographie argentique, noir et blanc, et ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années. Donc d'abord voilà, je faisais beaucoup de photos, ensuite mon premier film j'avais déjà tourné en noir et blanc, et j'aime beaucoup faire des photographies ou tourner en noir et blanc, parce que je trouve que le noir et blanc apporte... Il y a quelque chose de... une réduction d'informations, il y a moins d'informations dans la couleur, et du coup, ça laisse parfois plus de place à l'imaginaire, plus de place au mystère, plus ça permet de cadrer, de composer les cadres, je trouve, différemment. On est plus attentif à... Donc j'aime beaucoup le noir et blanc pour ça. Puis pour ce film, je savais en plus que j'avais envie qu'il se passe en bonne partie de nuit. Et filmer la nuit en noir et blanc, il y a quelque chose de très mystérieux que j'aimais beaucoup. Et ensuite, je trouvais que le noir et blanc apportait aussi quelque chose d'intéressant en inscrivant le film d'emblée ailleurs par rapport à des images qu'on a l'habitude de voir sur les cités, par rapport aux images d'actualité, puisque c'est des quartiers qui sont surmédiatisés. Les images d'actualité sont toujours en couleur et le noir et blanc, ça faisait d'emblée un pas de côté que je trouvais voilà, intéressant.
Vous avez besoin, en filmant, de mettre quelque chose entre vous et votre sujet? Une distance formelle, peut-être?
Alors, je dirais que ce n'est pas exactement entre moi et le sujet, mais que le noir et blanc crée, en termes de regard, une distanciation. C'est une façon d'assumer la subjectivité d'un regard, mais pour celui qui regarde, ça crée... parce que justement, on est moins habitué, ça, d'emblée, une forme de distance, une étrangeté qui peut nous inviter à regarder différemment. Et comme tout l'enjeu, enfin, un des enjeux vraiment... très fort de ce film de Sandré Debresse, c'était d'essayer de déplacer notre regard, d'essayer de regarder différemment ces espaces et ceux qui les habitent. Ben, c'est important pour moi d'avoir des choix formels et artistiques comme ça, forts et assumés. Comme ça pouvait passer par le noir et blanc, par le fait de tourner beaucoup la nuit, par la musique, une musique, celle d'Akoche, qui vient plus du free jazz. Et qui mêle ça avec des musiques qui viennent de loin, comme le gong tibétain, enfin très onirique. Enfin, tous ces choix voilà, étaient destinés à nous inviter à réouvrir un peu des imaginaires.
Est-ce que ce travail de noir et blanc, vous l'avez vraiment pensé dès le tournage, y compris en pensant aux couleurs qui seraient plutôt noires, plutôt blanches, les niveaux de gris? Ou est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez dû retravailler en post-production pour avoir ce rendu argentique
Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé en post-production, parce que ça a été filmé en vidéo et enregistré en couleur, que moi, j'ai l'habitude voilà, de travailler moi-même avec un logiciel de montage, un peu l'étalonnage. Donc ça, c'était pour la première phase de montage. Et à la fin, j'ai travaillé avec un étalonneur professionnel avec qui on a pu être beaucoup plus précis dans les nuances de...
Mais dès le début, tu savais que le film allait être...
Ah oui, dès l'origine, c'était un projet qui...
On savait du coup, c'est vrai que, enfin, je pense à ça, que plusieurs fois on a été beaucoup amené à tourner la nuit et que souvent il y avait voilà, enfin, des lumières, notamment des lumières de nuit très orangées, tout ça qui ne nous convenait pas, mais du coup on savait que c'était noir et blanc.
En fait, donc, dès l'origine, même en filmant, moi je voyais les scènes en noir et blanc et je me projetais tout à fait sur ce que ça allait rendre en noir et blanc.
On ne s'est pas préoccupé de la couleur au tournage.
Ouais. Non.
Grégory Cohen, dans votre film La Cour des Murmures, vous utilisez plusieurs caméras, vous mélangez les textures d'images. Mais vous restez en couleur dans une forme plus dépouillée qui semble a priori moins travaillée, plus proche de ce que donnent les images des caméras numériques brutes. Quel rapport avez-vous eu à l'image de votre film?
Alors c'est particulier parce que moi c'était la première fois que je faisais un film sans en tourner les images. Et c'est vrai que moi je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu viscéral dans le tournage. Et ça m'a fait bizarre, en effet. Enfin, même si je faisais 100% confiance et à Manon et à Anna pour les images qui étaient tournées, c'est vrai que ça m'a fait bizarre de ne pas pouvoir tourner mes propres images, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de la transe au moment du tournage et qu'on arrive à retrouver quand on est derrière la caméra. Et voilà, et alors, bon, enfin, pour le film, c'est vrai que moi, ce qui m'importait, c'est surtout vraiment... qu'est-ce qui s'est joué au moment du tournage et compte tenu en fait, du fait qu'on avait beaucoup de séquences à tourner, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu le temps de suffisamment en fait, se consacrer à des recherches plus visuelles, à des moments purement plus sensibles. C'est vrai que, voilà, en fait, parce que du coup, il y avait une équipe, qu'on avait beaucoup de séquences à tourner, tout ça, etc. À chaque fois, j'ai toujours eu l'impression dans ce projet en fait, de courir derrière le temps. Et donc c'est vrai que j'aime l'aspect brut de certaines images, notamment en effet parce qu'il y a deux cas en fait, il y a deux registres d'images dans le film. Il y a les images qui sont celles du film, et le réalisateur Tom a une petite caméra avec laquelle sont tournées les images, et souvent en fait on bascule sur cette petite caméra
au fur et à mesure des péripéties arrive à cette caméra.
Oui, voilà, c'est ça, oui, parce que la caméra se balade dans la cité. là c'était des images avec pour le coup des couleurs beaucoup plus brutes, qui bavaient un peu, tout ça, etc. Mais j'aimais bien en fait j'aimais bien aussi cette esthétique de ces images, ouais. Parce que c'est vrai que j'aime bien en fait à partir du moment où on triture l'image, soit du coup en allant vers le noir et blanc, soit en poussant les contrastes, en jouant un peu sur les limites de l'image, du coup je trouve qu'il y a quelque chose de plus vibrant qu'on a peut-être moins du coup dans les caméras HD. Ou...
Sur le travail de recherche que vous avez fait, est-ce que dans la perspective de ce travail, vous avez dû prendre parti, être engagé d'une manière ou d'une autre? Est-ce que ce n'est pas allé à l'encontre de votre posture de chercheur ou de cinéaste?
Après, je pense qu'il y a plein de façons de faire de la recherche. Du coup, il y a des gens qui vont plus faire de la recherche du terrain, qui sont très impliqués dans leur terrain, comme c'est un peu notre cas. Et de fait, du coup, on prend plus parti qu'une enquête, par exemple, qui va être basée sur des statistiques. Mais nous, ça ne nous semble pas inconciliable, en fait, le fait d'être à la fois impliqué dans ce qu'on tourne et en même temps de prendre du recul. En fait, pour nous, c'est un permanent, un dialogue entre
engagement
et distanciation. En fait, on essaie, c'est pas parce que du coup on est impliqué dans ce qu'on fait que ça empêche peut-être plus dans un second temps de prendre du recul et avoir de la réflexivité en fait sur ce qui nous arrive. Donc c'est vrai que, et ce qu'on a pu observer en fait, c'est nous, c'est vrai que c'est une démarche qui nous semble pas incompatible.
C'est plus de la réflexivité que de la neutralité.
On essaye, en effet, oui, je pense que... Mais ça, de toute façon, dans n'importe quelle enquête, je pense que c'est la neutralité, on n'est jamais neutre, c'est une fiction, pour le coup. Et voilà, et par contre, c'est vrai que, voilà, nous, ce qu'on a essayé, en effet, c'est la réflexivité, c'est-à-dire d'ouvrir la boîte noire du film, d'ouvrir la boîte noire de la recherche et d'essayer de prendre du recul sur les choix qui ont été faits, de donner au lecteur ou à la personne qui voit le film la possibilité, en fait, d'intelligibiliser, en fait, les situations... qui voient et qui comprennent un petit peu le processus et ce qui nous a mené à tourner certaines séquences ou à construire notre pensée de telle façon dans le cadre de l'écrit qui accompagne le film.
Une autre question plus pratique, comment se sont financés vos projets menés sur plusieurs années?
On a tous les deux eu des allocations de recherche
pour commencer
et faire ces thèses. Par contre, ensuite, c'est vrai que l'université n'avait pas de financement du coup pour payer les techniciens et payer le matériel du coup avec lesquels on a fait les films. Donc à ce moment-là, en fait, on a fait un travail de production cinéma plus classique, c'est-à-dire que on a écrit des dossiers de films qui ont été présentés aux différentes commissions, à la fois au CNC, l'aide à la diversité, la région.
On a travaillé avec une production de cinéma pour ça. Donc il y avait vraiment tout le temps de travail d'immersion, de recherche et d'enquête. On a pu le faire grâce au fait qu'on faisait ces recherches et qu'on a eu une bourse pour ça. Et ensuite, il y a eu vraiment le temps où pour fabriquer un film, ça demande pas mal de moyens, surtout qu'on travaille aussi, qu'il y a une équipe. Et là, c'était vraiment plutôt les financements cinéma qui ont permis ça. Mais c'est vrai que c'est des films, quand on travaille sur le temps long comme ça, c'est très compliqué à financer. Et dans cette rencontre, la recherche se fait sur le temps long. Et du coup, là, cette rencontre recherche-cinéma a permis de rendre la possibilité De la durée et qu'on ait voilà, c'est plusieurs vrai. Années devant nous pour faire ce travail.
C'est vrai que dans la fabrication, enfin dans la production plus classique d'un film, je pense qu'on n'aurait jamais pu prendre autant de temps du coup pour penser, enfin réfléchir au lieu où on met, enfin comprendre là où on mettait les pieds. Mener tout ce travail d'enquête au bureau en fait avant finalement de vraiment se lancer dans la réalisation du film. Ça c'est vrai que ben voilà, enfin il y avait c'est du coup soit c'est quelque chose qu'on arrivait à faire sur du temps libre à côté d'un travail, mais jamais on aurait pu du coup y consacrer autant de temps, parce que tout ce temps on a pu vraiment essayer, c'était un temps précieux, parce que du coup c'est vraiment là, enfin sur particulièrement pour De Sandré de Braise, c'est ce temps passé sur place qui nous ont permis de nouer des liens de confiance avec des gens et d'essayer d'avoir des relations avec eux qui sont plus proches de l'amitié, alors qu'au départ, on connaissait, c'est des gens qu'on ne connaissait pas du tout.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce tournage pour vous, comme pour le film et ses personnages, depuis le tournage
Du coup, comme tout ce travail de film, il est associé à un travail de recherche, il y a eu un très long temps aussi d'écriture de nos thèses, d'écriture et de ce travail d'écriture qui est accompagné par exemple de Sandré de Braise. Il y a un livre qui vient de paraître aux éditions Anamosa en même temps que le film sort au cinéma, qui est un livre donc, qui s'appelle lui aussi De Sandré et de Braise, mais qui se lit. Il y a deux façons d'entrer dans le livre, c'est-à-dire qu'il a deux faces, un peu comme un vinyle où il y a la face A, la face B. Là, si on le prend d'un côté, il y a une face qui s'appelle De Sandré de Braise, voix et histoire d'une banlieue populaire. Et ça restitue, on pourrait dire, un peu toute la recherche préalable qui a permis de préparer le film. C'est-à-dire, je revisite l'histoire de ces quartiers à travers les petites histoires des gens, des rencontres que j'y ai faites. Et après, si on prend le livre dans l'autre sens, la face B, ça s'appelle De Sandré de Braise, l'expérience d'un film. Et là, je reviens sur toute notre recherche en immersion avec Greg, quand les rencontres qu'on a faites au Mureau et comment j'ai travaillé avec chacun des personnages. Donc je reviens vraiment sur ce que ça a été la fabrication du film. Donc ça c'est depuis que le film est terminé, moi j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur ce livre et puis qui viennent de sortir. Donc en ce moment là c'est la tournée, c'est-à-dire que le film en ce moment voilà, il y a une tournée avec beaucoup de projections, débats, de rencontres un peu à travers la France.
À propos de ces rencontres, il y a eu parfois les protagonistes du film qui vous ont accompagné.
Souvent, ouais, même.
Est-ce que c'est important de parler du film qui vient d'être vu, y compris quand ce film est déjà très bavard, je mets entre guillemets, dans les paroles des personnages et acteurs sociaux?
Eh bien, je pense que le film, il peut tout à fait exister et se suffire à lui-même. Mais en fait, le fait d'être là pour rencontrer soit moi le public après, et encore plus quand les personnages sont là, c'est un film qui suscite vraiment des envies de rencontrer. Enfin, je vois, le public a beaucoup de questions et est souvent très, très attentif à ce que disent les différents personnages, encore au-delà du film. C'est-à-dire que le film, il a certes, enfin, j'ai l'impression qu'il crée cet effet, il nous donne envie de mieux connaître encore ces gens, enfin ces personnes, de les entendre. Et du coup, je trouve ça, oui, que c'est un, même si le film peut aussi vivre, exister tout seul, c'est aussi un plus que des rencontres se poursuivent et que la parole continue à circuler. Parce que c'est vrai qu'un des enjeux du film, ça a été tout ce travail autour de la parole, même si ce n'est pas un film que de parole, c'est aussi, il y a beaucoup de descriptions visuelles, il y a beaucoup. Mais la parole a une place importante. Parce que c'est aussi des paroles qu'on entend peu, des paroles intimes, des paroles politiques. Et du coup, il y a eu un enjeu, une rencontre et une circulation de la parole et qui se retrouve souvent après les projections dans la salle de cinéma aussi. C'est-à-dire que ce qui a été au cœur même, enfin au point de départ du film, continue à exister après. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se rencontrent. Par exemple, même les personnages du film, ils n'étaient pas tous des syndicalistes de l'usine et des jeunes du quartier. C'était pas forcément rencontrés avant la première projection du film.
Vous avez créé de nouveaux liens aussi.
C'est ça qui est intéressant.
Par exemple, je pense avec les Gilets jaunes. Suite à certaines projections du film, il y a plusieurs des personnages qui se sont rencontrés et depuis, ils tiennent un rond-point ensemble de Gilets jaunes. Donc il y a des rencontres qui se poursuivent.
Oui, non, j'allais dire, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est vrai que, comme ça a été dit un peu en début d'émission, c'est vrai qu'on a des personnages qui viennent finalement d'horizons assez différents, et le film les réunit. Et du coup, les débats, ça a été l'occasion justement de faire se rencontrer ces mondes qui sont pourtant liés, hein, parce qu'on parle d'un même lieu, d'une même histoire, etc., mais qui ne se côtoient pas forcément au quotidien. Mais donc c'est vrai que le film, bah voilà, c'était l'occasion que Fabienne, elle discute avec les Chromes, ou Momo, avec eux, avec Yannick. Du coup, et ça, c'est vrai que ces échanges-là sont chouettes. Et du coup, le film, il ouvre un espace de réflexion. Et de toute façon, voilà, enfin après, c'est, enfin voilà, on l'a dit, il fait 1h15 le film, donc c'est une forme assez réduite, enfin assez condensée, où finalement... On ouvre des questionnements, mais voilà, enfin, on peut dire peu de choses finalement avec un film, mais c'est vrai que c'est intéressant du coup que la discussion, les réflexions qui sont ouvertes par le film, eh ben, elles puissent se prolonger dans des débats à la suite du film. Ouais. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on fait les films, et c'est là aussi peut-être où ce dialogue entre cinéma et recherche en sciences sociales, il est intéressant, c'est-à-dire que on essaie d'aller au-delà en fait de la sortie d'un film. L'enjeu, c'est pas que de faire un film, mais c'est on se pose des questions. Le film, c'est un élément de la réflexion parmi d'autres, mais voilà, en fait, l'idée, c'est d'essayer de faire vivre ces questions et de les mettre en discussion. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est vrai que la forme débat après le film, elle nous semble importante, ouais.
On approche de la fin de l'entretien. Est-ce que vous avez des nouveaux chantiers visuels en cours ou futurs, peut-être avec les Gilets jaunes? Est-ce que vous avez réfléchi à cette question, comment les filmer?
Ouais, on y a pensé, c'est vrai qu'on avait très envie d'aller, parce que du coup, si juste à côté des muraux, donc, vu qu'on connaissait donc, Momo, enfin, donc, Mohamed Hossine, ou Fabienne et Jama, du coup, ils sont très impliqués dans un des ronds-points de Gilets jaunes qui se situe à Mantes, donc juste à côté des muraux. Et c'est vrai que bon, ça tombait mal, parce que l'an dernier, c'était là, on était en train de finir la rédaction des thèses, donc on était très pris par ça, en fait. Mais c'est
alors
vrai
que, bon, qu'on après, bouillonnait, enfin, on alors était des fois derrière notre ordinateur, on avait juste envie d'être avec eux sur un rond-point. Mais bon, on avait des nouvelles tous les...
Mais bon, enfin, en même temps, c'est une histoire qui fait que commencer. Hein,
oui,
donc,
et puis il y a d'autres projets sur
on
le
on a déjà reçu Emmanuel Gras et Florent Marty, avec qui on a parlé de leur projet de film, qui était en cours au moment de la... Et donc, est-ce que vous avez, vous, des nouveaux chantiers visuels, de recherche?
Il y a des projets, mais je dirais qui sont encore peut-être trop au stade de l'écriture pour en parler.
Mais après, si, il y a un court-métrage qu'on doit faire au Muro, de nouveau avec des jeunes. Donc ça, dans l'immédiat, en fait, on va retourner au Muro pour travailler sur un projet autour des façons dont ces jeunes ont envie de s'impliquer. C'est un projet en fait qu'on fait avec le BAL, le Centre d'Art Visuel, là, autour du documentaire.
Merci à vous deux, Manon Hotte et Grégory Cohen, d'avoir participé à ce nouveau grand entretien de Négatif.
Merci.
Merci à vous.
Négatif, c'est aussi un site internet négatif.co. Vous pouvez y découvrir la biographie des invités, des extraits vidéo des films, ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify ou sur YouTube, et à vous abonner sur les réseaux sociaux. À bientôt !